Vous êtes sur RTL.
Richard. Et puis je l'apprends à l'instant, l'ancien Beatle John Lennon a été assassiné par balle cette nuit à New York. John Lennon a été agressé alors qu'il pénétrait dans l'immeuble où résident sa femme Yoko Ono et son fils. Lennon était le compositeur de la plupart des grands succès des Beatles avec Paul McCartney.
Il y a 40 ans, le 8 décembre 1980, John Lennon, l'enfant prodige de la pop, était assassiné à New York. 4 balles mortelles pour celui qui avait été le chef de file des Beatles et demeurait alors à 40 ans le musicien le plus célèbre de la planète, victime d'un crime, d'un assassinat perpétré par un certain Mark David Chapman, un Américain de 25 ans, un fan de Lennon au parcours chaotique, un homme qui avait programmé depuis plusieurs semaines cette exécution qui allait émouvoir la terre entière et rendre célèbre son assassin. Mark David Chapman, aujourd'hui âgé de 65 ans, est toujours en prison pour avoir donné la mort au compositeur et chanteur d'Imagine. Sa 11e demande de libération lui a été refusée au mois d'août. C'est ce crime, à l'occasion de cet anniversaire, que je vais vous raconter ce soir sur RTL. Avec nos invités, nous allons voir si des questions subsistent sur cet assassinat, les déclarations successives et parfois contradictoires de Mark David Chapman, qui n'a jamais été considéré comme fou, ayant laissé une bonne partie de cette affaire dans la pénombre. L'assassinat de John Lennon, sait-on vraiment pourquoi la plus célèbre des pop stars a été tuée? L'enquête ce soir de l'heure du crime, c'est tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
L'efficacité à l'état pur.
Et l'heure du crime.
L'assassinat de John Lennon, c'était il y a 40 ans à Manhattan, à la nuit tombée, devant le porche d'un immeuble de luxe, juste en face de Central Park. Ce lundi 8 décembre 1980, vers 22h50, John Lennon et son épouse Yoko Ono s'apprêtent à rentrer chez eux au Dakota Building, l'un des immeubles les plus anciens, les plus extravagants et les plus chers de Manhattan. Le couple revient d'une longue séance d'enregistrement au Record Plant Studio. Il était prévu qu'ils dînent ensuite dans un restaurant de la ville, mais John Lennon s'est ravisé. Il préfère ce soir-là rentrer pas trop tard pour pouvoir embrasser Sean, son fils âgé de 5 ans. La limousine se gare face à l'immeuble à hauteur de la 72e rue. John Lennon et Yoko Ono n'ont que quelques pas à faire pour s'engouffrer sous le porche du Dakota Building, porche sous lequel se dessine une silhouette aperçue par le portier de l'immeuble, José Perdomo, ainsi que par un chauffeur de taxi. Yoko Ono entre la première. À son passage, l'individu qui se trouve sous la voûte salue d'un hochement de tête. John Lennon emboîte le pas de son épouse. Il reconnaît alors le visage de cet homme. C'est un fan, cela arrive de temps en temps, qui a passé la journée devant chez lui. Celui-ci l'a abordé quelques heures plus tôt, quasiment au même endroit, pour lui demander un autographe. Lennon le dépasse. Le fan glisse alors la main dans la poche de son manteau et en retire un petit revolver Charter Arms de calibre 38 mm. L'homme tire à 5 reprises dans le dos de la pop star qui se trouve à 3 mètres à peine de lui. 4 balles touchent Lennon, une 5e rate sa cible et va se ficher dans une fenêtre de l'immeuble. Le chanteur est blessé au dos, à un omoplate, il est au sol, il murmure « On m'a tiré dessus ». On m'a tiré dessus. Du sang s'échappe de sa bouche. Le deuxième concierge, Jay Hastings, enlève aussitôt son manteau et en recouvre le blessé. Il ôte également à Lennon ses lunettes tachées de sang. Les secours sont alertés. Dans les 5 minutes qui suivent, 2 voitures de police arrivent devant le Dakota Building. Les officiers du deuxième véhicule, Herb Fraunberger et Tony Palma, sont au chevet de John Lennon. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Les policiers décident de ne pas attendre une ambulance. Ils installent le chanteur sur la banquette arrière et filent à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche, le Roosevelt Hospital. À leur arrivée, vers 23h07 ou 23h15, les heures varient selon les rapports, il est établi que le blessé ne respire plus et n'a plus de pouls. Trois projectiles ont transpercé le corps de Lennon, du dos jusqu'à la poitrine. Un quatrième a touché l'aorte, tout près du cœur. Le poumon gauche est également transpercé. Toutes ces balles sont mortelles. John Lennon a perdu 80% de son sang. Dans l'heure, son décès est annoncé par le chef des urgences, le docteur Stephen Lynn, à Yoko Ono, qui se serait alors jeté à terre. Merci beaucoup de faire un petit détour ce soir dans le studio de l'heure du crime. On va bien sûr parler beaucoup dans cette émission de David Chapman, l'assassin de John Lennon. Mais en quelques mots, Eric, et tout de suite, qui est John Lennon à la période où il est tué? C'est peut-être la plus grande star du monde.
Ouais, c'est l'une des personnes les plus influentes, sans le vouloir d'ailleurs, hein, puisque à partir de 1975, il s'est un peu terré dans ce fameux immeuble dont vous parlez,
le Dakota.
D'abord pour faire grandir son fils, mais il est en train de refabriquer un album. Il y a l'album Double Fantasy qui vient de sortir, Just Like Starting Over, le bien nommé, passe partout à la radio. Il est une star planétaire et puis surtout il est l'un des quatre Beatles. Donc c'est absolument colossal, d'autant qu'en plus il se bruisse même qu'il est possible qu'il reparte enregistrer en Angleterre, ce qui voudrait dire qu'il pourrait peut-être recroiser McCartney et qu'il était plus si fâché que ça. Bref, il est l'une des plus grandes stars planétaires. En 66, il le disait, hein, lors de la dernière tournée des Beatles, plus célèbre que le Christ, et même si c'était maladroit, c'était vrai.
Et cette maladresse, on va voir si effectivement elle a coûté la vie à John Lennon avec notre deuxième invité ce soir. Bonsoir Emmanuel Pierrat.
Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Invité fil rouge ce soir dans cette heure du crime. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la culture et des médias. Auteur du livre Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités, paru chez Hugo Doc, et dans laquelle évidemment vous racontez cette histoire, cet assassinat de John Lennon. On revient avec vous Emmanuel Pierrat sur les toutes premières minutes de cette enquête, cette scène de crime. J'ai envie de vous dire tout de suite, mais quelle cible facile, ce John Lennon.
C'est une autre époque, Jean-Alphonse Richard, je le crois profondément. On est 40 ans en arrière et de façon étonnante, une des stars les plus célèbres de la planète parle à ses fans dans la rue, sort sans protection, sans garde du corps, sans aucune sécurité. Quelque chose, un seul détail qui montre cette espèce de candeur. La limousine qui dépose John Lennon au moment, quelques instants avant qu'il ne soit tué par Mark David Chapman, elle aurait pu rentrer à l'intérieur du Dakota Building, se garer à l'abri. Et il l'est déposé tout à fait normalement, comme s'il s'agissait d'un simple inconnu qui peut se glisser à travers la foule sur le trottoir.
Qui plus est, John Lennon, il l'a dit dans ses interviews, moi j'aime aller voir les gens qui me demandent un autographe, je ne peux jamais leur refuser. Il va parler d'ailleurs longuement avec cet homme, dont on va découvrir évidemment la personnalité dans cette heure du crime, et très rapidement. Il va lui parler le matin quand il signe cet autographe.
Il le voit à 17h, pour être précis, avec tous les fans savent qu'on peut voir John Lennon, qu'on peut venir à New York, à Manhattan, devant le Dakota Building, qu'il suffit d'attendre. Le portier ne vous chasse pas. Il y a un portier, un concierge, dont la mission n'est pas d'évacuer les
Ils ont même
les gens.
Des consignes pour laisser les gens
Ils ont des consignes pour laisser les gens, parce que John Lennon aime beaucoup l'idée d'avoir des fans. Effectivement, il y a tout ce discours humaniste et dans lequel il parle des êtres humains. Et donc, il attend. Enfin, il y a une sorte de rituel. Les fans savent que si John Lennon sort, John Lennon prendra le temps de leur parler. En l'occurrence, de parler avec Mark David Chapman, de lui signer plus qu'un autographe, il lui dédicace le dernier album qu'il vient de sortir. Cet album, d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, sera vendu par l'intéressé
aux enchères
oui. 2 millions de dollars bien des années plus tard, parce qu'il porte la double signature de John Lennon et puis Mark David Chapman avait...
La double signature et même la double empreinte qui
la double
sera
empreinte,
remarquée.
La double empreinte digitale. Alors, c'est montré que, pardon, je vais terminer avec
allez-y.
Ça, c'est juste montrer qu'effectivement, c'est une époque où une star mondiale parle assez normalement et sans... On est dans une époque qui précède les assassinats de stars.
Oui, c'est ça.
Et ce qu'on appellera les stalkers plus tard, c'est-à-dire les fans fous qui s'attaquent aux personnalités.
Qui s'attaquent aux personnalités. Encore un petit mot, Emmanuel Pierrat, il y a une polémique qui va être très rapidement développée, c'est sur les soins apportés à John Lennon à l'hôpital. On a dit qu'il aurait pu peut-être survivre.
Il suffit de vous entendre aussi, Jean-Alphonse Richard, quand vous racontez tout à l'heure que les deux policiers choisissent de le mettre sur la banquette arrière dans leur voiture et de l'emmener eux-mêmes aux urgences plutôt que d'appeler les soins. On est encore dans une autre époque, là aussi, dans une forme d'amateurisme qui n'aurait plus vraiment cours aujourd'hui. Peut-être heureusement, je ne suis pas sûr pour autant qu'il aurait été sauvé.
Le tireur n'est pas en fuite. Après avoir fait feu à 5 reprises et avoir touché à 4 reprises sa cible, il est tranquillement resté immobile sur le lieu du crime, attendant que la police vienne le chercher et lui demande son nom et son âge. Marc David Chapman, 25 ans. L'assassinat de John Lennon 40 ans après, une affaire et ses mystères, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du... pour la santé, consommez avec modération.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Heure du crime consacrée à l'assassinat de John Lennon il y a 40 ans à New York. L'ex-Beatles n'a pas survécu à ses blessures. L'homme qui lui a tiré dans le dos est appréhendé par la police. Deux minutes seulement après les détonations, la première équipe de policiers arrivait sur place. Les officiers Steven Spiro et Peter Cullen en patrouille dans le secteur de Central Park. Ces hommes surgissent de leur voiture et mettent en joue l'individu resté sous le porche du Dakota Building. Après avoir abattu John Lennon, celui-ci n'a pas cherché à s'enfuir. Il est resté immobile. Dans un premier temps, les concierges de l'immeuble l'ont vu déposer à terre son revolver. Puis cet homme, au physique rondouillard, cheveux bruns, lunettes fumées, a ouvert son manteau pour bien montrer, vêtu d'un simple t-shirt, qu'il ne portait aucune arme sur lui. Quand les policiers s'approchent, il est en train de feuilleter un livre de poche, le roman « L'attrape-cœur », une œuvre de J.D. Salinger, dans lequel l'individu a écrit « Ceci est ma déclaration ». Les policiers lui passent les menottes dans le dos, l'assoient sur le siège arrière de leur véhicule, l'homme se laisse embarquer sans émettre la moindre protestation. L'agresseur de John Lennon, alors que le chanteur est en train d'être déclaré mort à l'hôpital, décline sans difficulté son identité. Marc David Chapman, 25 ans, né le 10 mai 1955 à Fort Worth, au Texas. Il dit avoir agi seul et pour le moment déclare sobrement que Lennon devait mourir. La police le photographie et lui donne le matricule numéro 465-1382. Chapman vit à Hawaï. Il est marié à une femme d'origine japonaise, comme Lennon, donc une certaine Gloria Abe. Il a pris un avion spécialement pour régler son compte à l'ex-Beatles. Il est arrivé la veille au soir à New York. Il a passé la nuit à l'hôtel Sheraton où il a laissé ses affaires. La chambre est rapidement perquisitionnée, mais n'apporte pas d'éléments probants. La presse américaine fait déjà le siège du commissariat où a été conduit le tireur. Le monde entier va se réveiller le lendemain matin, incrédule, avec cette seule question : pourquoi avoir tué John Lennon ? En attendant les explications de ce Marc David Chapman, qui ne semble pas, il faut bien le dire, avoir toute sa raison, les enquêteurs commencent leur enquête de personnalité. Il est avéré que cet homme n'a pas d'antécédents judiciaires. C'est le fils d'un sergent de l'US Air Force. Il a eu une scolarité en dents de scie, moqué au lycée pour son physique ingrat et peu sportif, sautant des classes, fumant de la marijuana, puis à 16 ans, découvrant la religion et l'église presbytérienne. Chapman va alors passer son temps à distribuer des bibles, à jouer de la guitare et à chanter lors des offices. Il accepte toute une série de petits boulots, travaille dans un hôpital avant d'en être chassé et se retrouve à un poste de vigile de nuit. Il s'est marié l'année précédente, le couple n'a pas d'enfants. Il est avéré que Chapman connaît par cœur la carrière et l'œuvre de Lennon, c'est un fan. Emmanuel Pierrat, notre invité ce soir, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Alors l'enquête ne fait que débuter, on va peu à peu entrer dans les motivations, en tout cas on va essayer de les cerner, qui ont conduit Marc David Chapman à s'en prendre à John Lennon. J'ai rapidement dressé son portrait, c'est un homme qui sort un petit peu de nulle part. Il n'a pas vraiment un profil particulier, ce
Il n'appartient pas à la pègre, ça n'est pas un criminel ou un délinquant d'habitude, comme on dit dans le jargon de la police et de la justice. Mais il a quand même une enfance assez chaotique, vous l'avez évoqué, mais je la compléterai en ajoutant qu'à 15 ou 16 ans, en dehors du cannabis, il passe aussi au LSD. On dirait que c'est un peu l'époque, mais quand même, ce ne sont pas des petites drogues ou des choses simples. Et puis, quand il redécouvre la religion, il fait partie de ce qu'on appelle les born again, c'est-à-dire ces gens aux États-Unis qui pensent renaître à nouveau parce qu'ils rencontrent d'un seul coup Jésus-Christ quand ils sont, après avoir eu une éducation religieuse, ils le rencontrent à nouveau et se mettent à prêcher la bonne parole.
Qui le prennent en main, hein,
de façon très inquiétante pour nous, d'un point de vue français ou d'une république laïque comme la nôtre. C'est-à-dire vraiment avec une...
Très encadré.
Tout ce qu'on peut voir... Voilà, tout ce qu'on peut voir quand on regarde un télévangéliste américain, pour faire simple. Il y a un parcours quand même assez chaotique, un garçon introverti, pas bien dans sa peau, qui se cherche. il invoquera plus tard Dieu une fois, ensuite il tentera...
Ça va fluctuer.
Ça va beaucoup fluctuer. Donc ses motivations sont complexes et il y a sans doute beaucoup de, d'admiration pour John Lennon et beaucoup de déception, comme il le dira ensuite. Maintenant, pour lui, John Lennon aurait dû rester un être bienfaisant et pauvre jusqu'à la fin de ses jours.
C'est ça, mais ça, on va y venir dans ses explications parfois confuses. On va voir ce qu'il raconte. Un mot, Emmanuel Pira, sur l'attrape-cœur, ce roman que l'on trouve sur la scène de crime.
C'est un livre culte aux États-Unis, The Catcher in the Rye. C'est un livre de Salinger qui met en scène un peu une sorte de Mark David Chapman. C'est un anti-héros. Le personnage, Lynn Caulfield, qui est adolescent, qui erre dans New York, comme Mark David Chapman un petit peu, quand il vient assassiner John Lennon, qui erre pendant 3 jours, qui rencontre des prostituées. C'est un livre qui a fait scandale et qui est toujours considéré comme un livre très important dans la culture américaine, on va dire un peu contestataire, pour faire simple.
Alors Éric Jean-Jean, il va y avoir une immense émotion, évidemment, après la mort de John Lennon, et tout de suite d'ailleurs autour de l'immeuble, hein, la foule va être là très vite.
Ouais, une émotion dingue. C'est-à-dire que l'immeuble, vous l'avez évoqué, le Dakota Building, en fait, il est juste à côté de Central Park. D'ailleurs, j'y suis allé une fois me recueillir. Il y a cette plaque commémorative à l'entrée de Central Park, hein, avec Imagine, c'est une plaque ronde avec Imagine écrite dessus, etc. Enfin, c'est assez touchant. Et donc, le monde du show business va être bouleversé, hein, parce que les Beatles, c'est le chaînon manquant entre le blues, le rock et ce qui va suivre. Donc le monde du show business est à la fois bouleversé et paranoïaque. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout le monde va avoir peur de se faire assassiner. Les artistes vont prendre des gardes du corps, etc.
Donc ça, il y avait eu Sharon Tate déjà qui avait pétrifié
Mais là, pour le coup, tout le monde est pétrifié.
C'est ça. Donc ça fait peur.
Parce que n'importe qui peut vous demander un autographe et vous tirer dessus. Et donc tout le monde. Alors ça, c'est le côté show business. Et pour ce qui est de l'émoi populaire, vous imaginez, hein, on est passé de plus grande star de la planète avec son sourire un peu goguenard des Beatles à ce hippie à lunettes rondes qui défend la paix, les bed-in avec Yoko Ono où il pose nu pour la paix dans le monde, les affiches 4x3 qu'il prend à Hollywood Boulevard, hein, War is over if you want to, la guerre est finie si vous le voulez. Bref, on est dans une icône pop. C'est-à-dire que même ceux qui ne connaissent pas les Beatles, il y a cette icône de ce bonhomme un peu particulier, avec cette coupe de cheveux, parfois la barbe, mais surtout les lunettes rondes. En fait, le vrai symbole de John Lennon, ces fameuses lignes de ronde qui représentent aujourd'hui encore la paix et les babacool. Donc oui, on est sur une...
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
L'assassinat de John Lennon, c'était il y a tout juste 40 ans. Son meurtrier, Mark David Chapman, est questionné sur ses motivations, un geste prémédité. Le jour du meurtre, lundi 8 décembre, Mark David Chapman est venu se poster tôt le matin devant l'immeuble Dakota. Une poignée de fans étaient là, parmi lesquels un photographe amateur, Paul Goresh. Comme tout le monde, Chapman fait le pied de grue à proximité du porche pour tenter d'approcher et d'apercevoir son idole. Son revolver est dans sa poche et chargé. Il ne voit pas passer une première fois l'ex-Beatles qui vient de sortir d'un taxi. Quand il aperçoit la nurse du couple revenir de Central Park avec le petit Sean Lennon, il s'approche d'elle et fait des compliments à propos de l'enfant. Vers 17h, John Lennon et Yoko Ono apparaissent enfin sous le porche et se dirigent vers leur limousine. Direction le studio d'enregistrement, Chapman se précipite et demande au chanteur de lui dédicacer une copie de l'album Double Fantasy. La star prend tout son temps, demande même à ce fan s'il souhaite autre chose. Chapman répond que tout va bien. Dans un peu moins de 6 heures, Lennon sera mort. Au cours des interrogatoires, les réponses de Mark David Chapman fluctuent au sujet de ses motivations. Une suite de déclarations changeantes, imprécises. Seule certitude à ce stade des investigations, Chapman avait depuis longtemps en tête l'idée de tuer Lennon. 2 mois auparavant, il a déjà fait le voyage jusqu'à New York avec l'intention de tirer sur la star. Mais il n'a pas pu obtenir à l'époque de munitions pour son arme. Il a donc renoncé à son opération. Il est retourné chez lui à Hawaï et a confié à son épouse son désir obsessionnel d'en finir avec Lennon. Il lui a même montré son revolver et ses munitions spéciales, des balles Doom Doom, spécialement chemisées pour être encore plus perforantes. L'épouse, apparemment habituée à certaines divagations de son mari, n'a pas alerté les autorités. Aucune charge pour complicité ne sera retenu contre elle. Avant de repartir à New York, Chapman avait pris un rendez-vous chez un psychiatre pour entamer une thérapie et lui raconter ses angoisses. Il n'ira pas. Après le meurtre, il comptait se suicider en se jetant du haut de la Statue de la Liberté. Mark David Chapman, résume les enquêteurs, est un fan des Beatles et de John Lennon en particulier, jusqu'au jour où il a été choqué de lire que Lennon déclarait qu'il était plus célèbre que Jésus-Christ. Une de ses amies décrit Chapman comme un homme réellement en colère contre le chanteur, au point de le traiter de blasphémateur. Chapman était encore furieux d'avoir découvert que son idole, qui prêchait l'amour et le partage, vivait dans un luxe inouï, d'avoir aussi lu dans des interviews que John Lennon ne croyait en fait ni en Dieu, ni aux Beatles, mais croyait seulement en lui et en Yoko Ono. Emmanuel Pierrat, avocat, auteur du livre « Star à la barre » qui est paru chez Hugo Doc, et vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. On entre petit à petit, pas à pas, dans le cœur de cette étrange personnalité, Mark David Chapman. Alors, est-ce que le premier ressort, finalement, pour expliquer son geste, et vous l'avez évoqué il y a un petit instant, c'est une espèce de mysticisme religieux, c'est ça ? C'est sa motivation ?
Il y aura plusieurs explications de la part de Mark David Chapman, en précisant que son avocat, son deuxième avocat, celui qui plaidera, parce que le premier, c'est qui est commis d'office, se désiste. Il se désiste parce qu'il y a les fans en colère, envoient des menaces.
Et on va en parler dans l'épisode.
Donc le deuxième avocat, Marx, qui est un avocat pénaliste important, veut absolument plaider la folie. Quand il rencontre son client, il se dit qu'il n'y a pas d'autre solution et que le type, d'ailleurs, est fou. Et c'est Mark David Chapman qui lui refusera qu'on plaide la folie. Et il invoquera d'abord Dieu, en disant que c'est Dieu qui lui a commandé, ordonné d'assassiner John Lennon.
Ouais, parce que John Lennon, finalement, ne tiendrait pas sa parole vis-à-vis de la religion.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a Dieu lui dit, et ensuite, Mark David Chapman lui-même fait sa propre analyse, que vous avez évoquée, Jean-Alphonse Richard, en disant qu'il a été déçu par le comportement de John Lennon. Il y aura le luxe, il y a aussi le fait que, selon lui, John Lennon ne donne pas d'argent aux pauvres, ne reverse pas, en gros, ne fait pas une sorte de charité chrétienne.
C'est ça.
Et ce, en contradiction, selon lui, avec tous les discours tenu par John Lennon depuis notamment qu'il a quitté les Beatles et qu'il
vogue
de
ses
liens partage. Il y a ces scènes importantes qu'on connaît lorsqu'il se marie avec Yoko Ono, dans lesquelles il s'habille en blanc, en pyjama, à l'hôtel à Montréal pour recevoir pendant une semaine la presse sans bouger, en parlant d'amour et de paix. Donc il y a cette image d'un John Lennon qui est proche d'un Jésus-Christ, en quelque sorte, et puis qui d'un seul coup rappelle qu'il est athée, vit dans un immeuble Dakota Building qui est un immeuble de milliardaires à New York. Donc il y a une image qui se brise.
Leonard Bernstein qui est l'un des occupants de
Leonard Bernstein, Lorraine Bacall, voilà, Boris Karloff qu'on connaît pour être la créature dans Frankenstein, et l'immeuble a refusé Antonio Banderas et Melanie Griffith comme locataire, pensant que ça amènerait trop de bruit et trop de soucis.
Alors donc, est-ce qu'on sait, Emmanuel Pierrat, pourquoi il ne tire pas finalement dès le matin sur John Lennon? Il hésite. Il a pourtant son revolver dans la poche déjà à ce moment-là.
Vous avez évoqué tout à l'heure la première tentative, celle le 30 octobre, cinq semaines et demie à peu près avant l'assassinat commis, lorsqu'il achète son pistolet à Hawaï, enfin son calibre 38 à Hawaï, qu'il vient à New York avec la volonté d'en terminer avec John Lennon, et puis finalement change d'avis. Alors il change d'avis pour les musiciens, mais aussi parce qu'il change d'avis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même de très perturbé, qui est traversé par des courants ou des psychoses et des phobies toute la journée. Et là, ce jour-là, il vient d'abord avec le disque, il faut quand même comprendre, il vient avec un album pour le faire signer, et un revolver de l'autre côté, plus l'exemplaire de l'attrape-cœur dans une autre poche avec un message destiné au héros du livre. On a affaire à quelqu'un qui est quand même très à la limite.
On n'est pas dans le total équilibre.
On n'est pas dans une sérénité grandiose. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde à 17h. Quand John Lennon sort la première fois avec Yoko Ono, on ne connaît pas les horaires. John Lennon ne programme pas. Yoko Ono a raconté plus tard qu'il a été pris d'une envie d'aller composer et d'enregistrer. Ouais. C'est-à-dire une pulsion musicale.
C'était pas prévu, forcément.
C'était pas prévu. Donc, il sort à 17h, mais les fans attendent pendant des heures et des heures, en espérant que John Lennon va sortir. Donc à 17h, quand John Lennon sort, il y a beaucoup de fans autour de Mark David Chapman.
Il y a le photographe, le fameux photographe.
Il y a le photographe qui immortalise, qui photographie les groupies en train de se faire signer des autographes par John Lennon. Et donc je pense qu'il y a un moment un peu de sidération.
Sûrement.
Quand John Lennon parle à Mark David Chapman, il lui répète deux fois « Qu'est-ce que je peux faire pour vous de plus ?»
C'est ça.
Et le Mark David Chapman reste muet. Et avant de rester seul devant l'immeuble, et puis d'attendre le retour à un moment ou à un autre, plus tard dans la nuit, dans la soirée de John Lennon.
Effectivement, il va être figé un petit peu par son idole et par les quelques mots qu'il a pu échanger avec elle. Alors, un petit point quand même, encore un mot, on est très intrigué par cette aptitude au tir. Alors, vous allez me dire, il est à 3 mètres, il n'est pas très loin, mais il place quand même 4 balles et à des endroits stratégiques et vitaux dans sa cible, si je puis dire. Il suit des cours de tir, je crois.
Il suit des cours de tir et quand il tire dans le dos de John Lennon, il se campe dans une position de tireur quasiment professionnel. C'est-à-dire qu'il s'installe comme s'il était... Alors après, il y a plusieurs versions. On ne sait pas dans laquelle il aurait dit à John Lennon, il l'aurait apostrophé en lui demandant de se retourner. Et puis finalement, voilà, ça a été très contesté. Il s'avère que ça n'est pas corroboré. Et donc, il lui tire dans le dos, mais en étant installé dans une position de tireur avec les jambes un peu arquées, un peu cambrées.
Ce qui fera dire Emmanuel Pierra à certaines personnes que finalement, il y avait quelque chose, peut-être d'autre, c'était pas simplement un fou. On dira qu'il a appartenu à la CIA, etc.
Bien sûr, il y aura un peu de complotisme.
Peu de chance que Mark David Chapman soit jugé alors qu'il présente un état mental aussi fragile. Tout indique que l'assassin de Lennon échappera à son procès, mais contre toute attente, il va provoquer lui-même un coup de théâtre judiciaire. L'assassinat de John Lennon, un assassin nommé Mark David Chapman, est-ce qu'il va être jugé? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'efficacité à l'état pur. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à la mort de John Lennon, son assassinat le 8 décembre 1980 à New York. L'auteur des coups de feu, Mark David Chapman, a été facilement arrêté. La procédure de mise en accusation de cet homme de 25 ans peut commencer. Mark David Chapman reste pour le moment incarcéré. Il n'a aucun moyen de régler la caution que pourrait demander le juge. Le premier avocat qui a pris sa défense, maître Herbert Adelberg, a vite renoncé à le défendre. Il a reçu un nombre incalculable de menaces de mort et la promesse d'être lynché s'il s'occupait de Chapman. Chapman, l'homme le plus détesté du moment, beaucoup rêvent de le tuer. Il a dans un premier temps été interné dans un hôpital, dans une chambre placée sous bonne garde, mais pour raison de sécurité. La police a préféré le transférer dans une cellule blindée de la prison de Rikers Island. Le nouvel avocat de l'accusé est maître Jonathan Marks. Il veut éviter le procès. Il plaide d'emblée la folie de son client, tout au moins un jugement altéré. Il a pour cela recueilli les confidences de son épouse, mais il refuse d'en révéler la teneur jusqu'au jour où celle-ci sera peut-être appelée à témoigner. Au mois de février, Chapman écrit au New York Times un courrier fantaisiste. Il demande à tout le monde de lire l'attrape-cœur de Salinger, lecture qui permettrait de comprendre son geste. 5 mois plus tard, au mois de juin, Mark David Chapman change brutalement d'avis. Il avertit son avocat qu'il veut plaider coupable. La raison de ce revirement est tout aussi nébuleuse que les explications qu'il a données pour justifier son crime. Lors de l'audience du 22 juin, l'accusé indique ainsi, je cite, « que Dieu lui a demandé de plaider coupable, de reconnaître ses torts et de ne pas chercher à faire appel, quelle que soit la sentence ». La décision de Chapman est irrévocable. Le juge Dennis Edwards prend bonne note de cette requête. L'accusé est admis à comparaître en qualité de coupable. Rien désormais ne va arrêter la marche de la condamnation de Mark David Chapman. Lors des débats, une psychiatre indique qu'on ne peut pas juger Chapman irresponsable, mais on ne tient pas compte de son avis. L'avocat général qui porte l'accusation affirme que Mark David Chapman a commis ce meurtre dans un seul but, accéder à la célébrité. Quand le juge lui demande s'il a quelque chose à déclarer, l'accusé se lève et se met à lire à nouveau un passage du fameux livre « L'attrape-cœur », extrait dans lequel le héros promet de sauver tous ceux et celles qui risquent de tomber dans un précipice. La condamnation tombe. Mark David Chapman est condamné à une peine incompressible de 20 ans de prison et à l'obligation de suivre des soins. Sa première prison est le pénitencier d'Attica, près de Buffalo, dans l'État de New York. Emmanuel Pierra, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Alors tout de suite, étrange procès, plus qu'étrange procès. On reste sur sa fin, on a le sentiment que les débats ont vraiment été menés de façon expéditive.
Le procès est étonnamment court par rapport à ce qu'on sait des audiences aux États-Unis, des audiences criminelles. Bon, la procédure va vite. L'assassinat a lieu le 8 décembre. Le procès a lieu en juin. c'est-à-dire une poignée de mois plus tard.
On rappelle Emmanuel Pierrat, et vous connaissez parfaitement par cœur, vous êtes avocat. Aux États-Unis, la procédure est un peu différente. On refait l'enquête au procès, hein, c'est
on refait l'enquête au procès, mais en l'occurrence, on ne la refait pas beaucoup, puisqu'à partir du moment où on décide de plaider coupable, on vous pose la question au début. Alors, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Si vous plaidez non coupable, il y a des débats interminables pour savoir si vous êtes responsable ou non.
Fatalement, ça va très vite.
Ça va très vite aussi, parce que c'est très simple. Les seules questions qui vont se poser, ce sont les motivations. Or, Chapman va changer d'avis plusieurs fois. Il y a plusieurs versions que vous avez évoquées. Il y a Dieu, il y a effectivement la vengeance, ou en tout cas la déception vis-à-vis de John Lennon. Il y a la célébrité. Ce n'est pas seulement l'avocat général qui parle de la célébrité que cherche Chapman. On sait que ça faisait partie de ses motivations confuses. L'idée, enfin, d'atteindre une notoriété peut-être équivalente à celle de John Lennon.
C'est ça. Donc, il a ce besoin de reconnaissance et effectivement, il a trouvé un miroir à travers John Lennon.
Mais les débats sur les faits sont assez simples parce que il y a donc la veuve il y a Yoko Ono qui vient comme veuve de John Lennon. Il y a l'épouse de Chapman. Il y a le portier, celui qui était donc devant l'immeuble. Il y a le concierge qui a mis son manteau sur John Lennon, lui a retiré ses lunettes. Il y a un chauffeur de taxi, un photographe. Enfin, ça passe en 5-6 heures.
Yoko Ono vient. Vous dites, c'est la partie civile, comme on dirait chez nous. Elle va être assez discrète,
Elle est discrète. Elle sera beaucoup plus, expressive ou visible ensuite. Mark David Chapman est condamné, pour être précis, à la perpétuité avec 20 ans incompressibles. Et Yoko Ono mettra tout en œuvre, on va en parler
dans un instant, pour éviter
que Chapman ne sorte. Elle a cette phrase quand même qui restera pour toujours dans les mémoires, qui est « la violence appelle la violence ». Phrase qu'elle réutilise dans les lettres pour refuser la sortie de Chapman. Et quand même, c'est simple, c'est laconique, et c'est totalement contraire à l'image qu'on pouvait avoir du couple Yoko Ono-John Lennon, mais c'est les Yoko Ono du procès, c'est celle qui pleure son grand amour, fauchée par les balles à l'âge de 40 ans.
Et Éric Jean-Jean, notre deuxième invité dans l'heure du crime, on écoute Emmanuel Pierrat, vous êtes sans doute d'accord avec cette version. Yoko Ono va se replier sur elle-même, on peut le dire comme ça, après la mort de John Lennon?
Elle va essayer surtout de se reconstruire. C'est imaginer une histoire qui naît en 1966, c'est une grande histoire d'amour. C'est la grande histoire d'amour de sa vie. D'ailleurs, Yoko Ono, qui va pas très bien, d'après ce que j'en sais, elle a vécu la plus grande histoire d'amour de sa vie. À un moment, ils se sont séparés un tout petit peu, le fameux Lost Weekend qu'on évoquera d'ailleurs tout à l'heure. Elle est revenue, il est revenu, et il meurt sous ses yeux. Enfin voilà, je pense qu'elle a besoin de guérir.
Y a ce recul, elle ne supporte pas cette espèce de cauchemar.
C'est un cauchemar, et puis surtout elle a besoin de protéger Sean, son fils. Il a 5 ans quand meurt, je crois qu'il est né en 1975, Sean.
Exact.
Donc, petit garçon de 5 ans dont le père est l'une des plus grandes stars de la planète, assassiné devant sa maman, je pense qu'elle a besoin de se soigner, de s'éloigner et de se protéger.
Commence alors pour Mark David Chapman un très long parcours carcéral. Un pénitencier qu'il ne va jamais pouvoir quitter en dépit de ses demandes de libération. La justice estimant que cette affaire constitue toujours un trouble majeur. L'assassinat de John Lennon, pas de pardon et la prison à vie pour le meurtrier de l'ex-Beatles. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Yeah.
Imagine, évidemment, John Lennon dans cette heure du crime qui est consacrée ce soir à son assassinat. A tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et secourscatholique.org.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
L'assassinat de John Lennon, son meurtrier Mark David Chapman a été condamné en 1981. Il continue à purger sa peine alors qu'officiellement il pourrait bénéficier depuis bien longtemps d'une libération conditionnelle. Après sa condamnation, Mark David Chapman a commencé une longue grève de la faim. La justice a alors demandé à ce qu'il soit nourri de force et il a été placé un temps dans une unité psychiatrique de la prison d'Attica. Au fil des années, le meurtrier de Lennon s'est consacré à la lecture de la Bible et s'est fondu dans l'univers carcéral. Il accomplit des missions de secrétariat, travaille aussi aux cuisines. En 40 ans, il a été juste épinglé pour 3 incidents mineurs, refusant de suivre les ordres des gardiens. Son épouse n'a jamais cessé de lui rendre visite, ainsi que sa sœur et un révérend de l'église presbytérienne. À 11 reprises, Mark David Chapman a demandé en vain sa libération conditionnelle. Officiellement, il est libérable depuis l'année 2000. S'il a donné quelques interviews sans jamais apparaître à l'image, c'est lors de ses rendez-vous devant la justice pour être libéré qu'il a donné le plus d'explications sur son crime. En 2016, il déclare ainsi « J'étais obsédé par une chose, le tuer pour que je puisse devenir quelqu'un. 35 ans plus tard, je vois quelle horrible décision c'était et à quel point c'était égoïste. » En 2018, Chapman explique qu'il était en plein dilemme le jour du crime. Je me disais, c'est bon, tu as l'album dédicacé, rentre chez toi maintenant. Mais c'était impossible, je ne pouvais pas rentrer. Au mois d'août 2020, 11e tentative, il déclare au juge, c'est le pire crime que l'on puisse commettre, faire ça à quelqu'un d'innocent. C'était un père de famille, une icône, et je l'ai assassiné. Je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé à Yoko Ono, j'y pense tout le temps. Chapman, 65 ans, devra désormais attendre 2022 pour formuler une nouvelle demande de libération conditionnelle. Emmanuel Pierra, notre invité ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes avocat, et ça tombe très bien parce que vous allez nous expliquer pourquoi toutes ces demandes ont été refusées. C'est plus qu'un assassinat banal, John Lennon. Il y a tout le poids du symbole qui sûrement joue dans cette affaire.
Il y a l'émotion, il y a l'émotion générale, il y a ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public, il y a surtout la présence de Yoko Ono. Il faut se rappeler aussi que Mark David Chapman, quand il est condamné à la perpétuité avec 20 ans incompressibles, parce que l'État de New York a, pour le moment, suspendu la peine de mort, rétablie depuis. Donc, il échappe, entre guillemets, à la sentence la plus lourde, parce que les circonstances de l'époque ne permettent pas. Mais c'est l'homme le plus détesté des États-Unis, voire de la planète. Et Yoko Ono s'est manifestée de façon très, très, très intransigeante.
Alors, expliquez-nous, elle va revenir plusieurs fois à la charge.
Elle va revenir plusieurs fois. Mark David Chapman a le droit, depuis 1980, de demander tous les 2 ans sa libération conditionnelle. Dans le système américain, comme dans le système français, vous ne pouvez pas faire des demandes tous les jours, vous avez des délais, et donc tous les 2 ans, il peut demander sa libération conditionnelle. Tous les 2 ans, son cas est examiné et on demande aux parties civiles, c'est-à-dire à Yoko Ono, quel est son avis. Mmh. Et tous les 2 ans, Yoko Ono envoie une très longue lettre, très motivée, dans laquelle elle explique que son grand amour a été brisé à l'âge de 40 ans, que tout s'est effondré, qu'ils avaient un enfant âgé de 4 ou 5 ans, Sean,
oui.
Et que par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle répète ce leitmotiv, la violence appelle la violence. Et elle désigne Mark David Chapman sans jamais donner son nom et elle l'appelle l'individu. En rappelant qu'elle ne survivrait pas à la libération de Mark David Chapman.
Et elle va même aller plus loin dans des interviews parce qu'elle va dire « Mon fils est toujours menacé par cette personne, je ne suis pas tranquille ». Le savoir dehors et peut-être là en face de chez nous à Central Park m'effraie, me terrorise, je ne peux pas accepter cela.
Elle se manifeste aussi, par exemple, elle a interdit ou réussi à faire interdire une interview télévisée sur Channel 4, la chaîne britannique, une des chaînes de britannique qui voulait filmer et interviewer Mark David Chapman dans sa prison d'Attica, comme cela se fait parfois. On voit des détenus qui donnent des interviews, publient des livres. Il faut pas oublier aussi que dans le système américain, le rôle de la partie civile, c'est-à-dire de la famille des victimes, est très important. Par exemple, il n'est pas possible de percevoir des droits d'auteur. Si vous publiez un livre, vous êtes un serial killer, vous publiez vos mémoires, tout est automatiquement versé à la famille de la victime, sans se poser de questions. Donc le poids de Yoko Ono est extrêmement important. Alors, et empêche, tant qu'elle est vivante, toute libération de Mark David Chapman.
Tout à fait. Alors, Éric Jean-Jean, notre autre invité ce soir dans l'heure du crime, vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Pierra, ce rôle très important que l'on prête à Yoko Ono dans cette non-libération de Mark Chapman.
Oui, alors je pense que légalement elle n'a pas ce pouvoir, mais elle va faire tout. D'abord, elle est à la tête d'une fortune colossale, et ça peut aider. Ensuite, elle a cette espèce d'aura qui fait qu'elle dit « moi j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour ma vie, je ne veux pas que cet homme sorte de prison ». Et tant qu'elle aura un souffle de vie, Yoko Ono fera tout pour que Chapman ne sorte jamais de prison. C'est un traumatisme violent pour elle, elle s'en est pas remise, elle n'a pas refait sa vie, elle est toujours en train de vivre cette histoire d'amour avec John Lennon, assassiné il y a maintenant 40 ans, mais elle est toujours avec lui, elle est toujours amoureuse de lui, c'est toujours l'homme de sa vie. Donc oui, il y a un traumatisme, et tant qu'elle pourra, elle fera en sorte qu'il ne sorte jamais de prison.
Éric Jean-Jean, il y a évidemment le mystère Chapman qui perdure encore un petit peu aujourd'hui, mais pourquoi cette mort, aujourd'hui encore, frappe encore aussi fort les imaginations, 40 ans après?
Parce que c'est la liberté assassinée quelque part. Hein. C'est-à-dire que John Lennon représente la réussite de ce garçon pas si pauvre que ça, enfin pauvre quand même, pas mendiant, mais pauvre, qui devient la plus grande star du monde, qui a tout vécu à fond, qui a vécu les excès à fond, qui a vécu l'amour à fond, qui a inventé la musique pop à fond. Et donc, il y a cette espèce d'icône romantique. Vous savez, on est un peu comme dans ces images d'Épinal, de Che Guevara, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté la musique de Lennon, mais qui connaissent ces deux lunettes rondes, son visage, qui ont des t-shirts avec Lennon, t-shirts avec les Beatles. Il représentait, puis surtout, imaginez, Lennon, en 1969, quand il se sépare des Beatles, il se bat pour la paix. Et il devient une icône de la paix. Et une icône de la paix assassinée, forcément, ça marque les esprits.
Il y a cette dissonance, c'est ça, entre la brutalité de ce geste et puis ce qu'il représentait, Lennon.
Bien sûr. Vous savez, Jean-Alphonse, quand il chante, par exemple, Revolution, d'ailleurs, où il se mêle pas, il dit quand même dans la chanson, c'est dans le double blanc des Beatles, il dit personne ne peut comprendre qu'on prenne les armes. En tout cas, on se bat pour la paix. Donc c'est un soldat de la paix. C'est Gandhi, bon, est beaucoup trop grand, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Lennon prône la non-violence. Et donc la non-violence avec cet homme cheveux longs, barbu, avec lunettes rondes, assassiné en pleine rue avec un flingue. Vous imaginez le choc pour tout
l'impact.
Le monde.
L'impact.
Ouais.
Maître Pierrat, est-ce qu'il va sortir un jour de prison, finalement, Marc David Chapman?
Je crois que son destin est lié à celui de Yoko Ono. Elle a 88 ans à peu près aujourd'hui, et donc tant qu'elle est vivante, Mark David Chapman est condamné, si je puis me permettre, à rester en prison. Yoko Ono a cristallisé par ailleurs sur elle, je pense, une grande partie de la colère qu'avait suscité le geste de Mark David Chapman. Il faut dire qu'elle n'a pas arrangé sa cause. En 1981, un an après la mort de John Lennon, elle a publié un album qui s'appelle Season of Glass, sur la pochette duquel on voit les lunettes ensanglantées de John Lennon. Donc c'est une affaire extrêmement complexe et riche.
D'ailleurs l'album qui avait été enregistré, en tout cas
les bandes avaient été faites avant, oui.
Le jour de la mort de...
Exactement. Enfin, ça fait partie de la légende un petit peu.
Lennon.
Aussi,
alors, Éric Jean-Jean nous a indiqué quel était l'impact, l'émoi causé par cette mort. Est-ce que il y a une leçon judiciaire à retenir là de cet assassinat?
Il y a une leçon, je
pense. Ou est-ce qu'il y a des mystères en tout cas qui restent?
Il reste des mystères tant qu'on ne saura pas véritablement quelle était la motivation première de Mark David Chapman. Ça reste extrêmement confus. Tout ce qu'on sait simplement, c'est qu'on a quitté cette époque et qu'aujourd'hui, les stars, connaissant ce qu'on appelle des stalkers, les fans fous, il y a eu depuis des tentatives d'assassinat, des stars qui ont été tuées. On est basculé dans un autre monde, un monde qui est celui de l'Amérique violente ou du monde qui nous entoure aujourd'hui. John Lennon appartient à un passé pacifique et mythique.
Un passé pacifique et mythique. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat et puis Éric Jean-Jean qu'on va retrouver tout de suite dans Bonus Track spécial Lennon. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de l'heure du crime. L'assassinat de Lennon, c'était il y a 40 ans. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé avec nous cette heure du crime.